bienvenue à Un peu de crime dans ton café. Nous sommes vos gentilles et sympathiques animatrices, Catherine et Audrey. Bonjour Audrey, ça va bien?
Oui, ça va. Toi, ça va?
Oui, ça va bien. On a toujours plus de café et plus de crime pour vous aujourd'hui. Qu'est-ce qu'on boit aujourd'hui, Audrey?
Donc aujourd'hui, on va boire le Brésil Santos Bourbon Brun qu'on a commandé du site caféenvrac.com. Encore une fois, on n'est pas commandité par Café en Vrac, on l'a payé de notre propre poche. Nous sommes seulement des amatrices de café et on veut goûter le plus de café possible avec vous, chers auditeurs. Donc, sur le site, on nous décrit ce café comme étant doux, avec pas trop d'acidité et aucune amertume.
C'est très bien ça.
On le décrit comme ayant un arôme riche et velouté, avec un goût unique de fruits et de noix. Moi, ça me parle pas mal. J'aime bien que quand les cafés ont un goût un peu fruité, je trouve ça original. Donc, encore une fois, on a préparé notre café avec la cafetière à piston, qui est notre méthode préférée parce que on n'a pas le temps de faire du dripping.
Non.
Non, on a juste une vie à vivre.
La cafetière à piston est notre meilleure amie.
Oui, et on a des gros pipes.
Yes.
Donc, on peut y goûter.
Ouais.
Ouais.
C'est la fin de cette blague-là.
Ouais. Je confirme. C'est un excellent café. Mon café est un petit peu trop chaud. Je me suis un petit peu brûlé la langue. C'est pas grave. Je vais vous faire un épisode pareil. Je suis une trooper.
Alors, aujourd'hui, chers auditeurs et auditrices, Audrey, elle a un cas tout particulier pour nous. Tout particulier.
Catherine est devenue italienne.
Un accent étrange que tu sors.
Mais j'ai pas fait un espresso, pourquoi t'es devenue italienne? J'ai fait un
espresso, ciao. Alors on a un cas tout particulier pour vous aujourd'hui, c'est mon beau faux accent. Je suis très bonne pour les faux accents.
Ah, voilà. Ouais, si vous voulez qu'on fasse des épisodes en accent, dites-le nous, ça va nous faire plaisir.
Ça va nous faire un grand plaisir. Alors de quoi on parle aujourd'hui?
Oui, donc un peu de crime dans ton café. À date, on a pas mal toujours parlé
de crime
et de café. Surtout des meurtres, mais on aimerait aussi, parce que toi et moi, ça nous intéresse, parler de paranormal. Parce que je me suis rendu compte que toi et moi, on était des amis pour la vie quand tu m'as avoué que tu croyais aux extraterrestres.
Oui, et aux fantômes.
Oui, et quand moi je t'ai avoué en retour que je croyais aux fantômes.
Mm-hmm.
Donc, si vous n'êtes pas d'accord avec nous, ben on est vraiment désolés, mais nous, ça nous intéresse et on a envie d'en parler. On a envie de consacrer des épisodes au paranormal. Autant côté extraterrestre que fantôme, comme on en avait un peu parlé dans notre crime pop sur Susanna Davis. Et on va aussi probablement éventuellement s'intéresser aux théories du complot, qui sont un sujet de conversation que moi et Catherine, on aime beaucoup. On aime faire des thought exercises, mais là, juste pour être clair avec vous, on n'y croit pas en tant que tel. On trouve juste ça bien amusant de voir à quel point on est prêt à faire des flips par en arrière pour expliquer pourquoi la Terre est plate quand le modèle de la Terre ronde est tellement simple et fait tellement de sens. Donc, oui, aujourd'hui, j'aimerais vous parler d'un événement étrange qui s'est déroulé en 1990, quelques jours avant ma naissance.
Non.
Donc, je pense que c'est peut-être en lien avec ma naissance. Mais oui, je vais vous parler de l'OVNI qui est apparu au-dessus de la place Bonaventure en plein centre-ville de Montréal. Et en même temps, vous faire une petite histoire rapide de l'observation des phénomènes paranormaux, autant au Québec qu'au Canada. Vous allez voir, vous risquez même d'être surpris que le Québec et le Canada, surtout dans les années 60-70, avait quand même l'esprit assez ouvert en ce qui a trait au paranormal et aux apparitions dans le ciel, dont on ignorait la provenance.
Dans le firmament.
Mm. Naturellement, avec la guerre froide, à l'époque, il y avait un certain intérêt pour surveiller qu'est-ce qui se passait dans le ciel. Vous demanderez à vos parents si vous savez pas de quoi qu'on parle.
Ou à vos grands-parents.
On sait pas quel âge vous avez, puis s'il vous plaît, envoyez pas tout le monde des courriels pour nous dire quel âge vous avez.
Ça nous intéresse moyennement.
Ah, mais s'il vous plaît, vous envoyez des fan art et signez votre âge à côté, ça va nous faire plaisir de les recevoir et de les épingler sur mon beau tableau en liège, juste ici, où est-ce qu'il y a juste des mots que Catherine m'écrit avant de partir de chez moi.
Oui, voilà.
Mes sources pour cet épisode, c'est un épisode enquêteur du paranormal avec Christian Page, qui fut diffusé sur la chaîne Historia en 2016. Et je tiens à dire, Christian Page, pendant l'épisode, il est pas mal swell avec son petit fedora et son petit veston et son gros bracelet en or. Moi, je le trouve bien swell, le petit monsieur.
Probablement que les fantômes et les extraterrestres aussi.
Ah oh oui, ils veulent venir y parler parce qu'ils sont comme oh, « Bonjour, swell monsieur!
Mmh. »
Et ma deuxième source, c'est un livre de Québec insolite sur les ovnis qui a été écrit par Daniel Goyette et publié aux éditions Michel Quintin.
Oh, pas Michel Quintin!
Michel Quintin!
Quintin!
Ça fait une lecture intéressante. Il faut en prendre et en laisser un peu par contre, mais je suis pas ici pour critiquer Madame Goyette. C'est un livre qui est très bien écrit. Par contre, je vous dirais peut-être à lire avec un petit grain de sel. On en prend, on en laisse, mais c'est quand même intéressant. C'est bien expliqué. Bravo Madame Goyette, c'est un bon livre. Et ben Wikipédia.
Wikipédia c'est quand même bon, honnêtement.
C'est quand même bon. On entend des professeurs crier et s'arracher les cheveux, mais pour juste des petites informations comme ça rapidement pour corroborer certaines choses à gauche et à droite, c'est quand même pas si pire.
Ben c'est parce qu'en plus Wikipédia c'est comme une place où tu peux trouver d'autres sources aussi parce que tout est cité puis provient de quelque chose d'autre. Fait que si tu veux faire des recherches sur un sujet spécifique, ben commencez avec Wikipédia puis aller voir les références, ça peut être un bon départ.
C'est un bon moyen de commencer à écrire un épisode de podcast.
Oui, sur les ovnis.
Mais venez pas pour nous, on veut pas de compétition.
Non. Donc, fait qu'est-ce qui s'est passé en 1990?
On peut demander à Jean Leloup.
Mon Dieu, oui!
Ou sinon, on se met en contexte. C'est un soir. Le 7 novembre 1990 aura lieu l'un des phénomènes paranormaux les plus marquants du Québec, soit l'observation d'un ovni, objet volant non identifié, au-dessus de l'hôtel Hilton de la place Bonaventure en plein centre-ville de Montréal.
Non, pas le Hilton.
Le Hilton.
Oh!
Ok, oui, madame. À l'époque, le phénomène va faire la une des journaux québécois et canadiens. Plusieurs témoins étaient sur place, dont des agents de la police de Montréal et de la GRC, et un photographe de la presse a même immortalisé l'apparition sur pellicule. Si plusieurs sceptiques ont tenté d'apporter une explication plausible au phénomène, celui-ci laisse encore plusieurs chercheurs perplexes. Entre autres, un rapport de 25 pages qui a été produit par un ufologue montréalais Bernard Guénette et un consultant de la NASA, Richard Haynes, réunit des données quand même assez importantes au sujet de l'événement et démentit plusieurs théories qui attribuaient l'apparition à un simple phénomène météorologique ou astronomique.
On a des ufologues au Québec.
On a des ufologues au Québec, je vais même t'en parler tout à l'heure.
Ouh, je vais être patiente.
Oui, puis c'est pas juste nous deux.
Le club d'ufologie avec Catherine et Audrey.
Yeah! Dou, 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 dou. Donc, selon Guénette et Haynes, le cas de la place Bonaventure constitue une preuve indéniable de la présence d'un objet volant non identifié traversant le ciel de notre belle métropole. Alors, encore plus de mise en contexte. Il est 19h15. 7h15.
Oui.
La nuit est tombée.
Noir. Oui, oui.
On est longtemps. En novembre.
Oui.
Fait comme aujourd'hui. Il fait noir.
C'est quel jour de novembre?
Le 7 novembre.
Oh my god, c'était hier!
C'était hier!
Ah!
C'était la fête des E.T. Ils ont 30 ans!
Non!
Oh my god, la crise de la trentaine pour les E.T.
Les E.T. ont eu 30 ans hier! Ben c'est oui. Incroyable!
Puis là, maintenant, vous savez que moi...
Quel timing!
Que j'en vais 30 ans bientôt! Je suis tellement vieille!
C'est correct, nos cercueils sont commandés.
C'est correct. Ah, je suis tellement vieille. Quand je suis hangover 3 jours maintenant. Ça n'a pas de bon sens.
Les E.T. aussi. Donc, on est le 7 novembre.
On est le 7 novembre. Ça tombe donc bien. Bien.
Wow!
Donc, au-dessus du centre-ville de Montréal, une dense bande nuageuse d'environ 1000 à 1500 mètres d'épaisseur couvre le ciel.
Tabarnouche!
Il y avait du nuage ce soir-là.
Oui, oui!
Sur le toit de l'hôtel Hilton Bonaventure, il y a une piscine chauffée. Donc, il y a quelques baigneurs qui profitent d'une petite baignade nocturne dans la piscine. Les baigneurs l'ignorent, mais ils vont bientôt être témoins d'un événement mémorable. Puis là, Catherine, je remets ma vie en question, parce que moi, j'haïs ça me baigner, j'haïs l'odeur du chlore, puis j'haïs mouiller les cheveux. Fait que là, moi, j'aurais été au bar en train de sample des martinis, puis j'aurais manqué des E.T. parce que j'aime pas l'odeur du chlore.
C'est bien dommage, genre, je comprends que tu remettes en question tes choix de vie.
Ouais. Je pense qu'il va falloir que j'apprenne à dealer avec l'odeur du chlore si je veux voir des E.T. un jour.
Mais moi, je suis encore fixée sur le fait qu'il y a une piscine sur le toit du Hilton qui où je n'ai manifestement jamais mis les pieds parce que c'est le Hilton puis j'habite à Montréal.
Parce qu'on n'est pas des rockstars.
Parce qu'on n'est pas des rockstars puis pour qu'on irait à l'hôtel dans notre ville, tu sais, c'est pas...
Ben, tu sais, je me suis déjà demandé, comme, me semble, ça pourrait être le fun, à un moment donné, une fin de semaine dans un hôtel, juste comme pour relaxer. Ça
semblant qu'on est riche.
Ouais, juste. Tu sais. Tu sais, juste se reposer puis pas faire la crise de nécessaire.
Je me demande combien ça coûte. J'allais chercher ça. Comme une nuit au Hilton.
Va nous chercher un hôtel, là.
Yeah!
Pourquoi personne me dit que la vie adulte, c'était faire la vaisselle 4 fois par jour?
La vaisselle, c'est never ending.
Non.
Il y en a toujours plus à faire.
C'est comme l'histoire, c'est l'histoire sans fin.
Oui, c'est l'histoire sans fin!
Pendant que tout semble paisible, il y a une touriste américaine qui voulait show off son crawl sur le dos et elle lève les yeux au ciel et elle remarque d'étranges lumières jaunes qui semblent suspendues, immobiles au-dessus du toit de l'hôtel. Paniquée, notre athlétique américaine partage son observation avec la sauveteuse en poste ce soir-là. « Oh my gosh, look at them lights! Shoot them! » Ça, c'est mon imitation d'une Américaine en panique.
Shoot them!
Shoot them!
Ha!
C'est pas ça la réaction des Américains à littéralement tout?
Oui.
Étonnée, la sauveteuse alerte le directeur adjoint de la sécurité de l'hôtel, qui communique aussitôt avec les policiers de la communauté urbaine de Montréal, le CUM.
Non, la communauté urbaine de Montréal, oui.
Le CUM. Je vais pas dire le mot en anglais, mais non. Je sais pas pourquoi qu'on les appelle plus de même, hein?
J'ai mal d'avant!
Ah, je sais pas! On a peut-être un petit peu trop de blagues malaisantes. Le directeur de la sécurité craignait qu'il s'agisse d'un satellite qui aurait pu laisser tomber des débris dangereux qui auraient pu mettre en danger les gens qui fréquentaient l'hôtel et nos baigneurs qui auraient pu recevoir un morceau de satellite en arrière de la tête.
Puis ça le monde ta qui vont prendre l'autobus à la place de l'aventure.
Ouais, ça pète un peu ta soirée. Donc, la rumeur s'étend et des clients du restaurant, des congressistes et des employés de l'hôtel vont sortir sur la terrasse pour voir qu'est-ce qui se passe. Puis là, contrairement à toutes les fois que mon chum me dit de me dépêcher pour venir voir l'affaire cute qu'un de nos chats est en train de faire, mais l'objet il était encore là, dans le ciel, presque immobile. Il s'était légèrement déplacé d'au-dessus de la tour de la Bourse jusqu'au-dessus de l'hôtel Hilton. Un des témoins, un pilote d'Air Canada, c'est donc bien pratique qui était là ce soir-là.
Ben quand même, hein?
A estimé la position de vol de l'engin à entre 1000 et 2700 mètres d'altitude. Dépêché sur place, un agent de police blaguait avec un gardien de sécurité de l'hôtel au sujet d'une supposée soucoupe volante qui planait au-dessus de l'édifice.
Oh, 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 avec des petits E.T. tout à verre qui font comme... E.T. fondron! E.T. fondron avec son doigt qui fait de la mienne!
C'est ça des blagues de policiers?
J'imagine.
Ah ouais. Une fois arrivé sur la terrasse, il a cependant rapidement changé son fusil d'épaule.
Ben oui.
Yeah!
Il avait de l'air fou, là!
Il avait de l'air fou! D'une taille phénoménale, trop gros pour être humain, pour le citer lui-même dans son rapport, l'engin était toujours là, au-dessus des têtes des curieux, et ne se déplaçait que très légèrement vers le nord.
Mais il était à quelle hauteur au-dessus des têtes?
Entre 1000 et 2700 mètres d'altitude.
Ah, oh, excuse-moi, j'ai manqué ça quand je googlais le Hilton.
Prends des notes! Mais il est quand même haut, le Hilton, si je me trompe pas.
Ouais, il y a 1 kilomètre en haut du Hilton.
Okay. Quelque chose en moins.
Ok, parfait. Le Hilton, en passant, ça coûte 144 pièces la nuit. Je pense qu'on est capable de se payer ça.
Ah ouais?
Il doit s'être trompé. Ça se peut pas, 144 pièces la nuit, pour aller dans un Hilton. Ça, c'est
quand même... Je sais pas.
J'ai pas compris.
On n'est pas Céline Dion, fait qu'on sait pas. On sait pas.
Non.
Mais au pire, si on décide de se gâter, là, pis d'aller au spa.
D'aller à la piscine sur le toit pour les E.T.
Oui.
Fait que 1200 mètres en haut du
Hilton. 2700
mètres. Ah, 2700 mètres en haut du Hilton. Fait que, Comment s'appelle le policier? Je te fais tout répéter dans l'histoire.
Mais il y a pas de nom,
le policier. Il y a pas de nom?
Non.
Oh my god,
c'est le policier sans nom.
Policier sans nom. Parfait, on continue.
C'est un nouveau film avec Roy Dupuis, le policier sans nom. Pour vous donner une idée, un avion normal prendra environ 15 minutes pour traverser le ciel du centre-ville de Montréal. Ça fait longtemps qu'il serait parti si c'était un avion. Donc là, qu'est-ce qu'on regardait dans le ciel? Selon les témoignages qui ont été recueillis par Jules Béliveau et Marcel Laroche pour la presse, l'engin consistait en une énorme couronne ovale sombre en matériaux métalliques munie de 6 ou 7 lumières blanches très intenses qui émettaient des larges faisceaux en forme de V. Selon certains témoins ayant assisté à la scène, les lumières passaient parfois du jaune au bleu et du bleu au rouge. Donc, les Iti aimaient les LED de couleur.
On dirait, c'est ça.
À l'époque, le mille de la gauche tiers est encore en construction. Donc, pour s'assurer qu'il ne s'agissait pas simplement des lampes employées par les ouvriers qui se reflétaient sur la barrière nuageuse qui couvrait le ciel, le policier de la CUM, je vais être poli, a ordonné que soient éteintes toutes les lumières du chantier. Fermez ces lumières! Malgré ça...
C'est une théorie quand même, j'avais pas pensé à ça. Oui.
Malgré ça, les lumières sont demeurées dans le ciel. Conscient de l'importance de la situation, l'agent a pris la situation au sérieux et a dressé un rapport précis basé autant sur ses propres observations que celles des nombreux témoins qui étaient présents sur la terrasse. Ensuite, l'agent entre en communication avec la section des enquêtes fédérales de la GRC.
Yes!
La GRC.
À toutes les fois qu'il y a la police qui est mentionnée, je suis dedans comme « Yes!
Yes! »
Mais là, enfin, les policiers sont sur le cas!
Ils arrivent! La GRC dépêche un agent pour qu'il vienne faire son propre constat du phénomène.
Mm-hmm.
Cet agent, c'est Luc Morin, qui va arriver sur place aux alentours de 9h30 après avoir fait les vérifications d'usage, soit communiqué avec l'armée, afin de savoir s'il y avait une opération militaire en cours.
Oh, toutes tes bonnes hypothèses!
Non, on n'a pas à faire une gang de tweets, là.
Non, moi, depuis le début, j'étais vendue à l'histoire des ovnis, pis j'étais comme, c'est un ovni, pourquoi ils se cassent la tête de trouver
une situation? Audrey, ton épisode, il dure 5 minutes, là, ouais, on va aller faire d'autres choses.
Il y avait un ovni, les gens se baignaient, il y avait un ovni, c'est fini.
Ah oui, voilà. Ça arrive tout le temps.
Il y avait les hypothèses, ce n'est pas l'armée. Bravo, Luc Morin.
Mais non, Luc Morin a appelé l'armée, et l'armée a dit, non, on n'est pas en train de faire des manœuvres dans le ciel. Ensuite, Morin va téléphoner à l'aéroport de Dorval, qui va diriger son appel vers la tour de contrôle. L'employé à l'autre bout du fil va dire à Morin, qu'il n'est pas le premier à le contacter au sujet d'une étrange apparition dans le ciel.
Ben on sait qui les autres personnes qui ont appelé à l'aéroport de Dorval pour reporter ça, c'est un peu bizarre.
Une gang des cornifleuses.
Ben pourquoi t'appellerais à Dorval pour reporter ça?
T'appelles qui?
La police? Je sais pas, j'aurais appelé le CUM. Oh! J'aurais pas appelé l'aéroport de Dorval.
Écoute, moi, je te dis ce que j'ai lu dans mes petits articles.
Y'a-t-il quelqu'un qui a appelé à Mirabelle aussi?
Je sais pas, normalement. Mirabelle, tour de contrôle!
Puis
Mirabelle était comme, oh my god, il se rappelle qu'on existe?
Oh!
Donc, Morin n'est pas le premier à les avoir contactés au sujet d'une affaire weird dans le ciel, mais c'est les radars de l'aéroport de Dorval ne détecte absolument rien en dehors du trafic aérien régulier. Par contre, on avise Morin qu'un avion s'apprête à traverser cette portion du ciel. L'avion est en effet passé sous l'objet qui est encore là.
Mon Dieu, c'est bien inquiétant!
Donc, sur le radar, on voit l'avion passer, mais rien d'autre.
Mais le radar détecte rien d'autre dans le ciel?
Non.
Oh, that is some paranormal shit.
Ah!
Wow, ok.
Ah, on va commencer à mettre nos petits chapeaux en aluminium.
Oh, nos chapeaux en aluminium!
Oui, on va avoir l'air de des petits Hershey Kisses!
Exactement! Ok, je le mets sur ta gueule.
Je suis Joaquin Phoenix. Au cœur de la soirée, la presse,
ouais.
Le journal, la presse, pas toute la presse.
Toute la presse!
Toute la presse, amen! Toute la presse de Gutenberg!
Toute la presse du monde entier! Oui.
La presse va dépêcher ses journalistes Julien Béliveau et Marcel Laroche pour qu'ils se rendent sur place. C'est Laroche qui a eu la chance d'immortaliser sur pellicule la chose étrange qui survolait le centre-ville et que je t'ai montré avant qu'on commence à enregistrer.
Oh,
et chers auditeurs, si vous voulez voir, on va mettre la photo sur Instagram après nos visuels habituels et on va aussi la mettre sur Facebook pour que vous puissiez l'observer et vous-même faire des fan theories, vous questionner sur quoi c'est ça cette affaire-là.
Moi, je le demande.
Par exemple, j'ai montré la photo à mon copain et je lui ai demandé « Ah, selon toi, qu'est-ce que c'est que cet objet? » Et il m'a répondu « Je sais-tu, moi, Chris? » Donc, je vis avec un homme extrêmement curieux. Donc, c'était vraiment une fan theory qui m'a fascinée. Le cliché est par ailleurs disponible sur Internet pour vos beaux yeux de petits curieux et de petites curieuses. Non seulement les clichés pris par la roche nous ont permis de conserver une preuve tangible du phénomène aujourd'hui encore inexpliqué, ils vont également servir à calculer la taille de l'engin.
Hein?
Ainsi, on peut évaluer le diamètre de l'objet à 540 mètres,
hein?
Soit environ 4 Catherine, Catherine, enlève-toi du bord de la fenêtre! Catherine!
Je fais vraiment du gros active listening, je réagis bien, on va faire 540 mètres!
Oui, il n'y a pas de caméra dans nos faces, faut qu'on réagisse fort!
Mais il faut, sinon les gens ils vont se dire, mon Dieu, l'autre, elle s'est endormie.
Elle a pas bu assez de café! Ah non, inquiétez-vous pas, nos cerveaux présentement, c'est des signes en néon qui font. Vous
mangez beaucoup de chocolat aussi.
Et beaucoup de Brookside. Brookside, si vous voulez nous commander, écrivez-nous un peu de crème à gmail.com. On est des grandes fans.
Des sacs Brookside de format Costco, là.
Merci. Vous êtes notre MVP.
Pour les auditeurs et auditrices de notre génération, on appellerait ça le Club Price.
Le Club Price!
Si vous voulez acheter du Brookside du Club Price, oh on serait preneur.
Ça faisait longtemps que je n'avais pas entendu
Club Price. Le Club Price. Ok, oui, continue. 540
mètres! 540
mètres,
soit environ 5 terrains de football. Pourquoi en tant que société, on a décidé que les terrains de football, c'était une mesure reconnue? Genre, je suis vraiment curieuse, pourquoi on a décidé que les terrains de football, c'était comme a thing? Pourquoi pas des terrains de volleyball ou de pétanque?
Mais je trouve que toutes ces mesures sont aussi dures à se figurer mentalement.
C'est toutes des bonnes mesures, là. Je veux dire, moi je communiquerais, oui, c'est long comme deux terrains de pétanque.
En même temps, un coin de rue serait peut-être plus simple comme mesure, on sent? Ok.
En tout cas,
ouais.
Faites nous écrire un peu de crème à gmail.com puis expliquez-nous ça.
Puis nous suggérer de nouvelles manières de calculer les distances, comme un bras, puis...
Un bras, un écureuil.
C'est ça j'allais dire, trois écureuils, deux chiens.
Une boîte du jeu de Colon de Catane.
Ah, oh,
c'est toutes des bonnes mesures.
Une dalle de trottoir.
Une dalle de trottoir.
Ouais, toujours même grosseur, une dalle de trottoir.
Ça dépend quand ils sont brisés.
Un bac vert.
Un bac vert, mais préciser s'il est encore debout ou s'il est tombé à terre.
C'est ça.
Puis s'il est tombé à terre, est-ce que le bac est ouvert?
Oui, est-ce que la flappe est ouverte? Est-ce que les poubelles sont répandues partout? Ou...
Puis y a-tu un raton laveur en train de jouer dedans?
Trois ratons laveurs.
On ouais, pense vraiment à ce que... C'est la distance de 80 ratons laveurs. Wow!
Mais j'ai une question scientifique et pointue pour toi à laquelle tu n'auras sans doute pas de réponse. Mais...
Je attends toi rien.
Monsieur l'honorable Monsieur Laroche, en prenant la photo, là, comment il fait pour évaluer la grosseur de l'objet, parce que je veux dire, il n'y a aucune référence dans son champ de vision. Ah non, mais
c'est pas lui, c'est après, avec la photo, ils ont fait des objets d'étude. Vous pouvez chercher sur Internet, c'est expliqué comment ils ont fait.
Mais je veux pas faire ça, je suis paresseuse!
Ben, c'est correct!
D'accord, parfait. Mais non, mais c'est parce que c'est ça, vu qu'il n'y a pas de point de référence, ben, le ciel, puis c'est rien, c'est que t'as l'objet, puis c'est entouré de rien, puis là, tu te dis, ah, 540!
Écoute, c'est les mesures qu'ils nous ont données, puis ils ont montré qu'ils ont fait comme une espèce de d'évaluation de la photo, est-ce qu'on voit qu'est-ce qui est solide puis qu'est-ce qui l'est pas.
Oh!
J'avais trouvé la photo d'ailleurs qui était mise en une espèce de négatif où est-ce qu'on voit une certaine densité d'objets par rapport au reste, donc l'objet est plus dense que les nuages, puisque les nuages, c'est du gros. C'est du gros, comme qu'on met dans notre tour de stream. Okay. Bienvenue dans le club.
Bienvenue dans le club de Club Soda!
Club Soda!
Ok, oui. Bon, parfait. C'était la fin de ma question.
C'est correct. Pis là, les gens écoutent notre podcast en faisant comme « Son nom est toi, ces deux-là? »
540 mètres!
Okay. OK, on revient à l'histoire!
Voilà.
Donc, vers 10h30, l'objet finit par disparaître. En direction de l'est de Montréal. Il s'en va dans la schlag.
Non!
Ah! Un autre témoin...
Ça explique tant de choses.
Un autre témoin a par ailleurs rapporté avoir vu un objet mystérieux muni de lumières colorées planer au-dessus du stade olympique. Donc, c'était des vrais touristes, ils voulaient des photos.
C'était la même affaire!
Donc, selon le témoin, on aurait même pu entendre un son vibratoire avant que l'objet ne s'estompe dans le ciel. Donc, un genre de vous.
Mon Dieu, mais c'est terrifiant! Je dirais Fire in the Sky.
Je sais, je lisais ça, puis j'étais comme, voyons donc. Ben, voyons donc! Donc, l'observation, à cause de ce témoin-là, on peut dire qu'elle s'est prolongée jusqu'à environ 11h du soir. Et d'autres témoins ailleurs dans la ville ont également affirmé avoir assisté à l'étrange événement. Parmi eux, certains se situaient à l'angle de la rue Saint-Donat et du boulevard Roi-René.
Qu'est-ce que c'est ça?
Je sais pas si c'est René-Lévesque.
Roi-René?
Je sais, j'ai vu ça.
Saint-Donat?
Oui.
Où sont ces rues?
Je sais pas.
Ça doit être dans l'est de Montréal.
Ou...
Je connais pas ça.
Au centre-ville. Tu sais où est-ce qu'il y a plein de petits trucs qui se rentrent les unes dans les autres?
Ah, peut-être. Je vais chercher ça aussi. J'écouterai plus, je vais faire répéter toutes les informations.
De boulevard Roi-René, je suis comme... Vous voulez pas dire René Lévesque? J'aurais peut-être dû faire une recherche. Je m'excuse, chers
auditeurs. Ça m'étonnerait parce que c'est 1990.
Ouais,
ça fait pas longtemps,
René Lévesque. Il y avait des calèches à cause du Vieux-Montréal. il y avait pas de calèches? Non, ouais, il y en avait. C'est juste le Vieux-Montréal. Ils se pensent meilleurs que nous autres. c'est environ 12 km du Hilton Bonaventure. D'autres se trouvaient dans le Vieux-Montréal, ce qui est quand même pas si loin que ça. au coin de Saint-Sulpice et Brézolles, qui est une autre rue dont j'ai absolument jamais entendu parler, mais je chill pas souvent dans le Vieux-Montréal, il y a trop de touristes.
D'autres quoi? D'autres sightings?
Ils disent avoir vu, eux aussi, des lumières dans le ciel.
Donc on peut supposer qu'il y a plusieurs ovnis?
Non, c'est qu'ils voyaient de loin.
Ah, ok. J'étais comme
sous. Il y a un party dans le ciel!
C'est un rave! C'est pas un rave.
Puis... Il y a aussi des clients qui sortaient d'un taxi qui les déposait au Hilton qui ont rapporté avoir vu un objet lumineux au-dessus de l'hôtel. Et là, moi, je te demande, Catherine, le taxi te dépose à ton hôtel puis tu vois un espèce de faisceau lumineux au-dessus de l'hôtel. Est-ce que tu rembarques dans le taxi en faisant comme « on va aller voir s'il y a de la place aux 4 saisons ».
C'est ça, j'allais dire. Y a-tu encore de la place au Reine-Élisabeth? On pourrait reculer ouais, 4-5 rues.
Tu peux reculer de 4-5 rues parce que je pense que je vais me faire enlever puis me faire opérer puis mettre des sondes dans le ventre.
J'ai hâte que tu parles de la suite des choses et des théories qu'on peut parce que j'aimerais ça savoir s'il y a eu des enlèvements d'extraterrestres en plus des...
Ben écoute, je vais avoir une histoire pour toi dans éventuellement. Je t'aurais pas te dire du temps parce qu'on n'arrête pas de niaiser.
Ah, c'est vrai. Mais Ville d'Anjou, j'ai ma réponse.
Oh!
Ville d'Anjou.
Ok, mais c'est loin.
C'est très loin, Ville d'Anjou.
Wow, les gens, je vous crois pas, là.
Fait que les gens à Ville d'Anjou voyaient l'OVNI en haut du Stade Olympique. Le centre-ville
qui Ville d'Anjou. Non, ça marche pas.
C'est quand il était rendu au Stade Olympique, ça se peut pas. C'est non, bien trop loin.
Eux, ils veulent juste faire partie de l'histoire, là. Ils sont juste déçus d'avoir manqué quelque chose où c'était Jean-Marc Parent qui leur a dit de flasher leur lumière.
C'est dans ces cas-là, là, que je regrette beaucoup de ne pas avoir plus étudié les mathématiques pour être capable de faire un beau diagramme où j'ai comme la place Hilton, 2,5 km, Ville d'Anjou, 12 km par là-bas, combien de kilomètres à l'OVNI, puis c'est ça. Ce serait le fun, quand même.
Non, mais on peut parler des métaphores dans les romans de... De qui vous voulez.
Ah, de qui vous voulez.
De qui vous voulez, on en est.
On est bonne demain.
Maintenant, un petit peu de jargon ufologique.
Oh, je suis prête.
En 1972, l'astronome américain J. Allen Hynek propose une méthode de classification des observations d'OVNI parce qu'apparemment, ça arrivait assez souvent pour qu'on ait besoin d'un système de classification. Donc, ça s'appelle le système de classification de Hynek. Moi aussi, si je découvre quelque chose, je donne mon nom.
Oui, bien sûr. Il faut.
Dans son livre « The UFO Experience, a Scientific Study », il divise les différentes observations selon 6 types.
Oh mon Dieu, 6!
6!
J'en connaissais juste 6!
OMG!
J'en connaissais juste aucun.
Donc, on commence avec les lumières nocturnes, où les témoins voient à plus de 150 mètres une ou des lumières paraissant anormales dans le ciel nocturne. Donc, si c'est le soleil ou la lune, merci de ne pas appeler la police. Appelez pas la police.
D'accord.
C'est marqué un lampadaire à 150 mètres. J'ai une couple de questions pour l'architecte de la ville de Montréal.
Les lumières du Pont-Jean Cartier, ça compte-tu?
Non. Sauf si le show est un petit peu trop énervant, mais là, c'est juste du gaspillage d'argent.
OK, premier type. Bon, les lumières qui sont pas le Pont-Jean Cartier.
Oui. Puis là, vous prenez des notes, il y a un pop quiz à la fin.
Oui.
Ensuite, on a les disques diurnes. Les témoins voient à plus de 150 mètres le jour un objet volant non identifié n'ayant pas nécessairement la forme d'un disque ou d'une soucoupe. Donc, ça peut être un cul.
C'est quoi la mesure arbitraire du 150 mètres?
Je sais pas.
Ça peut être à 10 mètres?
Je sais pas.
OK.
Non, fait que tu vois juste une petite patente weird dans le ciel, on va te demander de te calmer.
D'accord. Donc, disque diurne, oui.
Disque diurne. Ensuite, on a les radars visuels. Des témoins voit un ovni et celui-ci est identifié par un radar. Ce qui n'était pas
comme,
le cas.
C'est ça, j'allais dire, comme pas l'aéroport de Dorval.
Exactement.
OK, oui.
Ensuite, on a la rencontre rapprochée du premier type, où des témoins voient un ovni à moins de 150 mètres. Ensuite, on a les rencontres rapprochées du deuxième type, où un ovni laisse des traces matérielles de son passage. Comme dans le sketch de François Pérusse, attention, tu vas faire une trace.
Prout!
Tu fais des traces dans un champ de blé d'Inde.
Ah non, comme dans Signs.
Oui. Oh. Tu fais des beaux motifs dans le blé d'Inde.
J'ai assez peur, là, présentement. OK, comme si le troisième type.
Rencontre rapprochée du troisième type.
Non.
Et oui, comme dans le film de Monsieur Spielberg, on a intitulé le film à cause de la technique de classification de Hynek. Donc, les témoins voient un ovni ainsi que ses occupants, ou seulement les occupants, à l'extérieur de l'ovni. Catherine me regarde avec des gros yeux. Je dormirai pas
dans toi. Je sais c'est quoi le quatrième type, c'est pour ça.
OK. Donc, Ça, c'est la technique de classification de Hynek.
Ben là.
C'est plus tard que d'autres ufologues qui ont ajouté des catégories à la liste de Hynek, et là, on va commencer à être un petit peu farfelu.
Comme le quatrième type?
Rencontre rapprochée du quatrième type où des témoins sont enlevés par un ovni.
Oui!
Donc...
Travis Walton!
Travis Walton!
Betty Barney Hill! Tout le monde!
Exactement!
Tout le monde a été enlevé par les extraterrestres.
Voilà. Ensuite, rencontre rapprochée du cinquième type, où des témoins parviennent à communiquer avec les occupants de l'ovni.
Arrival!
Exactement.
Je trouvais des exemples pour tout.
Rencontre rapprochée du sixième type, où des témoins et ou des animaux sont tués par un ovni et ou ses occupants. Donc,
Dreamcatcher de Stephen King. C'est moi.
Je peux pas te surprendre. Ok, t'es-tu prête? T'es-tu prête pour le septième?
J'ai des exemples pour tout. Oui.
Rencontre rapprochée du septième type. Et là, attention, messieurs, mesdames. Les témoins ont eu un rapport sexuel avec l'occupant d'un ovni à l'intérieur ou à l'extérieur de celui-ci. À l'extérieur de celui-ci dans un buisson.
Ah, pas d'exemple de ça.
Si vous en voulez des exemples, mais là, faites attention à vos chastes oreilles. Un podcast que Catherine et moi, on aime beaucoup.
Oui.
Le Last Podcast on the Left, qui consacre des épisodes à des histoires de d'ovni. On fait des épisodes sur les rencontres sexuelles avec des extraterrestres. Mais, on vous répète, c'est un humour assez noir et un petit peu vulgaire sur les bords, donc...
Très, très salace, oui.
C'est de l'humour salace. Si vous avez les oreilles un peu chastes et que vous n'aimez pas ce type d'humour, vous tenez à distance.
Mm-hmm.
Mais sinon, on vous recommande, c'est assez comique. Et on se rend compte que ce type de rencontre-là se passe surtout au Brésil et aux États-Unis pour une raison quelconque.
Mm-hmm.
Au Canada, on n'a pas vraiment de cas de ce type de rencontre-là. Donc...
De quoi, de rencontres sexuelles avec des extraterrestres?
Non.
Mais tant mieux! Mon Dieu!
Non, c'est pas un extraterrestre, c'est juste un hipster de l'UQAM. Les baigneurs du Hilton auraient eu droit à ce que Hynek appelle les lumières nocturnes. L'objet était à plus de 150 mètres dans le ciel, et on parle surtout de lumières étranges qui sont demeurées suspendues au-dessus du Hilton pendant plusieurs heures. Fait intéressant, la majorité des rapports d'observation d'OVNI au Québec se situent pas mal soit dans cette catégorie ou dans la catégorie des rencontres rapprochées du premier type. Donc là, je me demande, pourquoi les extraterrestres, ils nous aiment pas? Pourquoi qu'ils veulent pas nous parler? Pourquoi qu'ils veulent pas nous enlever? C'est-tu notre nourriture, notre accent? Qu'est-ce qu'on leur a fait? Je m'excuse au nom de tout le Québec et le Canada auprès des extraterrestres. Revenez, on leur fera plus jamais, je vous le promets.
Putain, on a tellement de beaux champs de blé d'Inde dans lesquels ils pourraient se poser, là.
Oh, ils pourraient faire des belles
terres. Tellement d'opportunités qui sont pas saisies.
On est là pour eux.
On les attend. Venez,
on va vous faire découvrir la poutine, vous allez aimer ça.
Raël les attend aussi.
Raël les attend de pied ferme. on va probablement faire un épisode sur Raël, donc énervez-vous pas tout de suite.
Absolument.
Là, c'est dommage, parce que selon moi, les extraterrestres pourraient définitivement se faire beaucoup d'amis au Québec. Selon un sondage Léger Marketing...
Oh! La meilleure firme de sondage du Québec.
Il y en a-tu une autre?
J'en connais pas d'autres. Oui.
Réalisé en 2016, c'est 61% des Québécois et des Québécoises qui croient en une forme de vie extraterrestre. Là, le sondage n'était pas très précis à savoir qu'est-ce qu'on définit par forme de vie extraterrestre. Est-ce qu'on parle des bactéries, par exemple, qui ont été retrouvées dans l'eau sur la surface de Mars et qui, techniquement, constituent une forme de vie extraterrestre ou une actual forme de vie intelligente, donc, par exemple, les Grey, les Tall White,
Roswell, tout ça.
Roswell, etc., qui tenteraient d'entrer en contact avec nous, par exemple, avec des chaudes lumières ou des beaux dessins dans nos champs de
levain. Encore.
Sinon, parmi ces 61% qui croient en une forme de vie extraterrestre quelconque, c'est environ un quart des répondants et des répondantes qui pensent que les extraterrestres sont entrés ou tentent d'entrer en communication avec nous et ou de nous visiter. Donc, pour eux, l'incident de la place Bonaventure, c'est une preuve concrète que nous ne sommes pas seuls et que les extraterrestres veulent nous faire un petit bonjour. Autre statistique intéressante récoltée par le sondage, c'est 53% des répondants et des répondantes qui sont convaincus que les autorités nous cachent la vérité au sujet de la vie ailleurs dans la galaxie.
Wow.
Donc, on commence à mettre nos petits chapeaux.
Oui, c'est ça que j'allais dire. Je pensais pas qu'on était aussi paranoïaques que les Américains. Je dois avouer que je suis un peu déçue.
On va se calmer un petit peu.
Les autorités nous cachent des choses!
On veut savoir!
Ah!
Mais là, je m'aventurerai pas trop dans la mentalité conspirationniste parce que, comme on l'a déjà dit au début de l'épisode, on aimerait déjà faire des épisodes sur les théories du complot et on va en parler un petit peu plus à ce moment-là. Par contre, c'est vrai qu'il règne autour des opérations militaires une culture du secret qui elle-même entretient des rumeurs de nature conspirationniste et un certain scepticisme de la population face aux figures d'autorité. Mais là, garder des opérations secrètes, surtout pour l'armée, c'est crucial pour la sécurité nationale. C'est des choses qu'on n'a pas d'affaire à savoir.
C'est ça j'allais dire. Là. C'est bien le fun de partager l'information, mais à un moment donné, la sécurité nationale, c'est important aussi.
C'est important aussi. Et c'est pas monsieur et madame, tout le monde qui peuvent connaître ces informations-là. Et c'est très correct.
Ça ne veut pas dire que c'est un complot.
Ça veut pas dire qu'on veut voler votre chien.
Non! Pourquoi volerait-on votre chien?
Non!
Sûrement pas si beau que ça.
Non, je suis sûre que c'est, tu sais, les maudits chiens blancs avec des grosses traces rouges sur le bord des yeux, pis là, les gens sont comme, regarde, mon chien est tellement cute, pis moi, je sais pas quoi dire, parce que maudit que je trouve ça laid un chien.
C'est comme les gros Rottweilers, là, qui grognent tout le temps, pis les gens sont comme, il est pas méchant!
Et pis toi, t'es comme,
tu perds une main,
t'es comme, tu veux-tu mes yeux?
Ouais, c'est ça.
Donc, c'est crucial pour la sécurité nationale. Puis même pour l'anecdote, dans l'épisode de l'enquêteur du paranormal de Christian Page, à un moment donné, il consulte des archives de gens qui ont fait des témoignages comme quoi il a vu des apparitions dans le ciel, et on voit que les rapports sont censurés, donc on voit des gros blocs noirs. Et là, Christian Page regarde l'archiviste et fait comme « Oh, pourquoi il y a des choses de cachées? » Et l'homme de répondre « Ben, c'est parce qu'on peut pas révéler l'identité des gens, c'est dangereux pour eux. » Même si on a accès aux archives.
Ça tombe sous le sens. OK.
Je veux dire, même si on a accès aux archives, il y a certaines informations qu'on n'est pas libre de partager, dont des informations personnelles, donc votre adresse, votre numéro de téléphone. Si vous faites un rapport à la police, le rapport est archivé, mais vos informations demeurent confidentielles. C'est illégal de diffuser ces informations-là, donc c'est tout simplement ça. Mais encore une fois, c'est quelque chose qu'on voit pas, donc on se demande, mais pourquoi on le voit pas? Il y a une explication très simple, mais en même temps, des fois, on aimerait des explications un peu plus farfelues.
Ben oui, mais là, je vous l'accorde, monsieur l'archiviste, là, c'est une bonne explication.
Donc, ce que j'essayais de dire avec ça, c'est que, mais c'est parfaitement humain d'essayer de remplir les vides, les trous, ou de chercher une autre réponse que, quand celle qu'on nous fournit, ben, est pas satisfaisante. Comme là, je te dis, ben, on peut juste pas partager d'informations personnelles, puis tu me regardes avec une face d'enfant qui a pas eu son Xbox à Noël.
Même pas vrai.
Par exemple, on peut aussi penser à Area 51. La partie rationnelle de moi-même, je m'en doute que c'est des opérations militaires qui se passent, mais l'autre partie de moi aime ça, penser qu'on cache des extraterrestres. Par ailleurs, si j'étais présidente des États-Unis, ce qui est pas possible parce que je suis pas née aux États-Unis, ben je vous garantis que tout ce que je fais, c'est exiger de lire les rapports sur Area 51, puis après je me flex, parce que moi, dealer avec l'économie mondiale, ça m'intéresse pas, j'ai de la misère avec mon propre budget.
Faut connaître ses propres limites, hein?
Faut connaître ses faiblesses, c'est humain. Par contre, et ça c'est un élément qui m'a vraiment intéressée, il y a un article qui a été publié par la Fédération Suisse de Psychologie qui porte sur la psychologie des croyances conspirationnistes.
Intéressant!
Et ça explique que les personnes qui ont tendance à adhérer aux théories du complot ont également une tendance très marquée pour l'anthropomorphisme, donc une tendance à attribuer des intentions humaines à des objets ou à des animaux. Quand on parle d'extraterrestres qui aimeraient entrer en contact avec nous pour nous transmettre des connaissances, pour nous tuer ou se reproduire avec nous, c'est une tendance à attribuer des comportements typiquement humains à des choses qui ne le sont pas. Pour moi, ça explique beaucoup de choses. S'il y avait une forme de vie intelligente à des années-lumière d'ici, pourquoi est-ce qu'il voudrait faire des expériences sur mon foie?
Je sais pas, là.
Donc, je pense que...
C'est convaincant, ton argument!
Je pense que s'il y avait une forme de vie intelligente ailleurs, le cerveau humain aurait même pas la capacité de communiquer avec elle, on n'est pas branché pour ça, donc on fait juste projeter des intentions très 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 humaines sur une chose qu'on peut pas comprendre.
Mais peut-être.
Comme quand on dit « Oh oui, mon chien il agite la queue parce qu'il est de bonne humeur parce que je viens d'arriver du travail. » Bah c'est ça, mais c'est aussi...
T'es-tu en train de dire que les chiens sont pas de bonne humeur quand on revient du travail, là?
Non, je suis en train de dire que les chiens c'est des extraterrestres!
Ah! Oh non!
La tangente est finie, je reviens chez nous au Québec. Le ciel! Catherine, ça appartient à qui, le ciel?
Très bonne question. Est-ce que c'est comme l'océan, ça appartient à qui, l'océan?
Écoute, je sens que je pourrais recevoir des questions bien farfelues. Écrivez-nous un peu de crime à gmail.com. C'est à qui, le ciel? Mais non, je vous réponds. Le ciel, ça relève du gouvernement fédéral.
Quoi?
Mais... Oui.
Mais c'est... Mais c'est jamais le même ciel.
Non, l'espace au-dessus du Québec qui constitue le ciel.
Ouais, mais ça bouge tout le temps, on tourne!
Non, mais le ciel! Qu'est-ce qui se passe dans le ciel au-dessus de notre territoire?
Je pense que mon cerveau va exploser. D'accord, le ciel au-dessus du Canada appartient au Canada.
Ça appartient au Canada.
Wow!
Oui.
C'est magnifique!
Fait que c'est à qui la rue, c'est à nous la rue, ben pas le ciel. Le ciel est au Canada.
C'est à Justin Trudeau le ciel.
C'est à Justin Trudeau le ciel.
Ah, oh, j'aime ça.
Quand il va se promener dedans là, avec sa carte.
C'était qui dans ce temps-là, en 90? C'était-tu...
Mulroney?
Ah, il était beau, lui.
Oh, Jean Chrétien! Il était pas beau, lui.
Il était pas beau, lui. C'était peut-être déjà Jean Chrétien.
Ah! C'était au Canada ou au Québec? Non, c'était au Canada. Les gens vont juste commencer à crier la politique canadienne! Parle-nous des extraterrestres!
C'est un épisode où je fais du fact-checking à toutes les 20 minutes pour comprendre où est-ce que se trouve
parce
la place
dans l'aventure. Parce que moi, je l'ai pas fait.
C'est pas grave. Peut-être Mulroney, Brian de son prénom. Continuez, Sheldon.
Mais donc, même au Québec, le ciel appartient au Canada. Désolé pour tout le monde qui aimerait qu'on sacre notre camp. Le ciel n'est pas à nous. Sorry.
Ah.
Puis c'est pour ça aussi que vous pouvez pas juste vous inventer une bébelle qui vole et aller dans le ciel, ça prend des permissions. C'est surtout pour éviter les accidents avec les avions. C'est pas parce qu'on veut pas que vous trouviez des extraterrestres, c'est parce qu'on veut pas que vous rentriez dans un avion et que vous fassiez une catastrophe. Donc, le ciel, ça relève du fédéral, même au Québec. Dès 1950, l'armée canadienne, en partenariat avec le ministère des Transports, ont créé des projets d'études qui visent à répertorier les observations d'OVNI en territoire canadien. Le ministère des Transports, qui est même pas capable de gérer le trafic de la maudite ligne orange à l'heure de pointe.
Puis de construire le REM.
Exact. Veut gérer des extraterrestres.
Pourquoi pas?
Écoute, le ministère des Transports au fédéral est non oui, c'est le ministère des Transports fédéral et non provincial, ah, mais si j'ai été...
C'est bien rail.
Si j'ai un soapbox pour chialer sur l'état du métro à Montréal, je l'apprends et je le fais. Le gouvernement fédéral va financer deux projets. Le projet Magnet, ou projet Aimant, et le projet Second Story, ou le projet Second Vie. Pour la petite histoire, l'OVNI au-dessus de la place Bonaventure, c'est loin d'être le premier cas d'activité paranormale où des visiteurs venus d'ailleurs sont répertoriés au Québec ou au Canada.
Non!
D'ailleurs, j'ai rapidement envie de te parler d'un autre cas qui a eu lieu au Manitoba.
Vas-y.
Et qui a beaucoup spark notre intérêt pour les ovnis au Québec et au Canada. Le 19 mai 1967, bon, il y a des gens qui disent le 19, il y en a qui disent le 20, c'est pas ça qui est important.
Pendant l'Expo 67.
Pendant l'Expo 67.
Mais très loin de l'Expo 67.
Mais loin de l'Expo 67, parfait. Mais il était peut-être en chemin, on sait pas.
Compris.
Steven Michalak, un immigrant polonais installé au Québec, au Canada, pardon, depuis 1949, profite du long week-end pour prospecter.
Prospecter de l'or?
Ouais.
En 67.
Ouais, il commence à être tard.
Oui, c'est ça, j'allais
dire. Le Wild West est un peu fini, monsieur Michalak.
D'accord, oui. Il se prospecte alors.
Il prospecte dans le parc provincial de Whiteshell, situé dans l'est du Manitoba, à la frontière de l'Ontario. Et oui, dans ma tête, j'ai fait Alsama pour être sûr que c'était le Manitoba à côté de l'Ontario, parce que je me mélange tout le temps dans ce coin-là.
Alsama?
Oui, Alberta, Saskatchewan, Manitoba, Alsama. Pour te rappeler dans quel ordre ils sont.
Ben voyons donc, j'avais jamais entendu ça. Super, Alsama.
Vous allez toutes passer...
On apprend
vous...
plein de choses hein, dans ce podcast.
Ben oui, parce que toi pis moi, on n'a pas de loisirs.
Ben, c'est parce que je connais pas grand-chose pis tu fais mon instruction. J'aurais la première affaire.
La géographie du Canada.
Terrain de football, pis oui.
Hey. Aux alentours de midi, pendant qu'il examine une veine de quartz aux abords d'une rivière...
C'est beau du quartz.
Steven aperçoit des oies sauvages. Des oies.
Des oies.
Des oies. Qui semble fuir quelque chose, mais en même temps, c'est des oiseaux, ça a peur de tout.
Ouais.
Qui semble fuir quelque chose avant de remarquer deux objets gris métalliques de forme discoïdale. Selon Steven, les objets ressemblaient à des grosses cigarettes avec une bosse au milieu.
What?
OK.
OK.
Je m'en pas destiné.
On est loin de la soucoupe, là.
On est, ouais. Moi aussi, on dit de forme discoïdale. Mais semble, on parle d'un cylindre.
C'est comme dans Le Petit Prince quand le doigt a mangé l'éléphant.
Remarque, je juge pas comment tu roules tes cigarettes, là. Si t'as de la misère, tu fais juste comme...
Ok, c'est intéressant. Fait qu'il y a un cylindre avec une bosse en milieu.
Exactement.
Deux cylindres.
Deux cylindres.
Ouais. Oui.
L'un des deux objets est venu se poser près de Steven pendant que l'autre est disparu en arrière des arbres. Selon Steven, de l'objet émanait une forte odeur de soufre ainsi qu'un sifflement strident. Après quelques minutes, une trappe s'ouvre et Steven perçoit des sons semblables à des voix qui proviennent de l'intérieur de l'engin. Pensant qu'il s'agit d'un appareil militaire expérimental, il tente de communiquer avec les occupants en anglais, en russe, en polonais et en allemand sans jamais obtenir de réponse. Et là, je me rends compte...
C'est un méga polyglotte.
Hey, écoute, en quelle langue tu veux parler? Pas de trouble, monsieur.
Il a même pas essayé le français, par exemple.
Non.
Deuxième langue officielle!
Hey! Il y a une communauté francophone au Manitoba, t'as pas d'excuse. Hey! Curieux, Steven s'approche de l'objet, plus précisément de la trappe ouverte. À l'intérieur, il ne perçoit qu'un... Catherine est comme « Non! 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 Va-t'en! » Il perçoit seulement un étrange motif lumineux. Tout à coup, trois panneaux coulissants descendent de la trappe ouverte et Michalak tente de les toucher. Catherine, non, 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 non! Mauvaise idée! La surface des gants de toile qu'il portait s'est mise à fondre. Steven retire rapidement sa main et l'objet se met à tourner sur lui-même jusqu'à ce que Michalak soit face à une grille d'une trentaine de centimètres de large percée de trous. Un souffle brûlant s'échappe des trous et met le feu aux vêtements de Steven.
Oh mon Dieu, c'est bien terrible!
Ça va pas bien?
Oh, je déteste ça, cette histoire-là.
L'OVNI quitte le site et Steven retire ses vêtements. Au bout de quelques minutes, il est pris de vomissements et de migraines et s'empresse de retourner au motel où il demeure afin qu'il soit conduit à l'hôpital.
Il est tout nu dans un champ à moitié brûlé en train de vomir.
Oui, puis il a été poigné pour retourner à pied au motel.
Oui, puis ensuite aller à l'hôpital tout parce nu,
que,
brûlé.
Parce que Michalak a même en chemin croisé un agent de la GRC qui apparemment sont partout.
RCMP.
Et qui refuse de lui venir en aide parce qu'il pense qu'il s'agit d'un ivrogne.
Hey, ça, c'est vraiment terrible!
Le policier est comme bravo. Moi, je fais pas ma job, le monsieur tout nu qui vomit, débrouille-toi avec tes troubles.
Oh my god.
C'est terrible. C'est pas correct, monsieur de la GRC. Donc, Michalak décide finalement de rentrer chez lui à Winnipeg pour consulter un médecin, ce qu'il fait aux alentours de 10h15 ce soir-là. Arrivé à l'hôpital, le médecin constate que Stephen est couvert de brûlures, de formes carrées sur le torse et le ventre, et ses vomissements et ses migraines ne se sont toujours pas arrêtés. Craignant une irradiation, on envoie Stephen consulter le département de médecine nucléaire de l'hôpital, où on ne décèle par contre aucune trace d'irradiation, mais on diagnostique tout de même une brûlure thermique.
Mais pourquoi y a-t-il un département de radiation à cet hôpital?
Parce que la guerre froide...
Ah, oh, j'imagine.
Puis j'imagine qu'il doit y avoir des centrales nucléaires. Ou...
Ah oui, ça se peut.
C'est possible. Je sais pas. Si vous venez du Manitoba, dites-nous-le.
Expliquez-nous-le, oui.
Si vous venez de Winnipeg, expliquez-nous.
On a besoin d'instructions.
On vous écoute. On a besoin d'instructions.
Moi, j'ai besoin d'instructions. Instruisez-moi.
Instruisez-nous. Par contre, des traces de radiation extrêmement importantes ont été détectées à certains endroits de la zone où l'incident a eu lieu.
Non!
Une chose qui a beaucoup servi aux arguments des sceptiques qui cherchent à réfuter cette rencontre.
Oh, les maudits sceptiques.
Autre fait intéressant, Michalak a senti le soufre pour le reste de ses jours après l'incident, et ce, peu importe le nombre de bains et de douches qu'il a pris. Pauvre petit monsieur Michalak, personne ne croit, puis en plus, il sent le pète.
Mais il y a une odeur de pète ou dans son nez ça sent le soufre?
Non, comme... c'est lui, il émane une odeur de soufre.
Il émane une odeur de pète.
Mais je vais t'avouer, c'est moyennement clair. Ça dit que ça sentait le soufre, mais je sais pas si c'est lui ou le corps de monsieur Michalak.
Mais j'espère que c'est lui qui trouve que tout a une odeur de pète et non pas son corps qui a une odeur de pète.
Si vous êtes related à monsieur Michalak, dites-le nous, est-ce que sentait le pète?
Pauvre monsieur Michalak.
On revient un petit peu de notre côté du Canada. En plus des nombreux autres événements répertoriés par Daniel Goyette dans son livre sur les ovnis, on comprend que le Québec et le Canada, c'est des lieux où il y a eu beaucoup d'observations de phénomènes paranormaux.
Ouais?
Ouais!
Incroyable.
Pas juste aux États-Unis, nous autres aussi, on a.
C'est ça, j'avais dit.
C'est d'ailleurs à un tel point que le gouvernement fédéral va investir dans des projets qui visent à répertorier ces observations-là. Donc, comme je vous avais dit, les projets Magnet et Second Story.
Second Story.
On va commencer par le projet Magnet, le projet EMA. Établi en 1950 par le ministère des Transports et sous la direction de, attention les beaux noms, Wilbert Brockhouse Smith.
Tabarnouche.
Hey. Le projet est actif de manière officielle jusqu'en 1954 et de manière officieuse jusqu'en 1962, au moment de la mort de M. Smith. L'intention derrière le projet, c'était d'observer les phénomènes paranormaux dans le but d'améliorer notre propre ingénierie et technologie. Parce que M. Smith s'intéressait particulièrement aux aimants. Et il espérait que ses découvertes au sujet du géomagnétisme propulsent l'exploitation du champ magnétique de la Terre dans la propulsion de nos propres modes de transport. Donc qu'on soit spiné par des aimants.
Ça propulse la propulsion dans notre transport?
Ouais. Je fais de mon mieux, ok? Ça va propulser notre propulsion.
Ça va propulser notre propulsion dans le monde des transports.
Hey, hey!
Ok, parfait.
Wilbert Smith et ses collègues sont convaincus que si les ovnis sont réels, au moins ils ont dit si, ils sont la clé vers une nouvelle forme d'énergie. Parce qu'il est convaincu que les ovnis, ben, ça marche avec des aimants. Je sais pas pourquoi.
Ok.
En 1952, Smith publie un premier rapport où il affirme que les ovnis proviennent d'une source de vie intelligente et que ceux-ci emploient le magnétisme afin de traverser le ciel. Il réitère ses observations dans un deuxième rapport publié en 1953. Smith, pour sa part, était même convaincu que les ovnis étaient reliés à divers phénomènes psychiques et il se croyait lui-même en contact direct avec une forme de vie extraterrestre avec qui pouvait communiquer par voie télépathique. Donc, le gouvernement était pas mal plus funky à l'époque.
Oui, c'est ça que j'allais dire.
Ce que ça veut dire, c'est que M. Smith est arrivé au ministère des Transports et a dit « Je parle avec des extraterrestres, puis vous devez me donner de l'argent. » Puis le ministère a dit « Mais oui, bien sûr. »
C'est très pertinent.
« Signe ici. »
Oui.
« Take my money. » En 1952, Wilbert Smith établit un observatoire à Shirley's Bay, proche d'Ottawa, pour étudier des rapports d'observation d'ovnis. Il souhaite observer de plus près les caractéristiques physiques des ovnis pour les mesurer et les quantifier. Plusieurs observations ont par ailleurs été investiguées par le projet Magnet, aimant, mais en 1954, on tire la plug. Mais on permet à Smith de continuer d'utiliser l'observatoire de Shirley's Bay, mais à ses propres frais. Donc, on te laisse par contre le bâti puis on est pogné avec, mais c'est toi qui vas payer pour l'hydro.
Le bill de l'hydro, c'est ça.
C'est toi qui paye le bill de l'hydro. C'est ce qu'il a fait jusqu'à sa mort en 1962. Parallèlement au projet aimant, Wilbert Smith va faire partie du projet Second Story ou projet Seconde Vie. Assez similaire au projet aimant, sans toutefois s'intéresser au magnétisme de la Terre, le projet Second Story visait surtout à compiler toutes les informations concernant les soucoupes volantes. C'est pas mal plus big que le projet aimant parce que les États-Unis, le ministère des Affaires étrangères et les forces armées vont s'allier pour observer les phénomènes paranormaux.
Mm-hmm.
On va même aller jusqu'à produire des affiches encourageant la population à rapporter toutes les observations anormales dans le ciel canadien. Et je vais les chercher et les mettre dans nos posts Instagram et Facebook. Oui,
je veux voir ça, ça devait être beau.
Oui, ça disait vraiment « Regardez dans le ciel et rapportez ce que vous voyez ». Bon, naturellement, on parle aussi de l'époque de la guerre froide, donc probablement voir s'il y a des missiles qui traversent le ciel. Mais s'il y a un missile qui traverse le ciel, duck and cover!
Oui.
c'est pas une bonne nouvelle. Puis, comme je l'ai mentionné, le ciel, ben, il est de juridiction fédérale, donc le gouvernement veut savoir s'il se passe des affaires pas catholiques dans le ciel. Si un objet traverse le ciel, il faut qu'on s'assure que c'est pas une menace pour la sécurité nationale. Là, si vous filez comme Tom Cruise dans War of the Worlds, vous allez être pas mal déçus, parce que l'armée s'est rendue compte assez vite que des lumières qui clignotent dans le ciel, c'est weird, mais c'est pas dangereux. Donc, si je me fie aux archives qui sont disponibles en ligne, ils devaient juste être écœurés de compiler des témoignages qui peuvent aller du weird au hilarant, au parfois excessivement plat. Aussi, même si c'est intéressant et que j'apprécie que notre gouvernement soit pas mal moins mystérieux que le gouvernement américain au sujet des apparitions biz dans le ciel, le projet Second Story, c'était devenu un peu une patate chaude. Personne savait vraiment comment répertorier les différentes occurrences paranormales et quand on les répertoriait, ben on savait pas vraiment quoi faire avec.
Ben c'est ça j'allais dire, ça
assez difficile. Le gouvernement reçoit les rapports du projet Second Story, dit merci et les sacro vidanges.
Mm-hmm.
Un petit peu comme la section affaires de la presse week-end. Qu'est-ce que tu veux que je fasse avec ça? J'ai-tu l'air d'un businessman?
Mm-hmm. Exactement.
Non. J'ai-tu une cravate? Non.
Non.
Aussi, même s'il y a eu plusieurs témoignages répertoriés pendant la guerre froide, ben, il y a personne qui sait vraiment quoi faire avec ça, même si c'est vrai qu'un ovni devait traverser le ciel. Qu'est-ce que tu veux que je fasse?
Ah, c'est ça.
C'est qu'on sait même pas qu'est-ce que ça mange en hiver, des extraterrestres.
Prendre une photo, mais à part de ça, pas grand chose à faire.
Fait que, en 1977, l'armée décide que c'est pas de son ressort et va transférer le dossier au Centre national de recherche. Par la suite, c'est en 1995 que le CNR va officiellement arrêter de produire des rapports sur les observations d'OVNI parce qu'on a coupé le budget.
Là, c'est pas raison.
Là, c'est plate de même, mais comment le Canada, on veut savoir qu'est-ce qui se passe dans le ciel.
Toute la faute à Jean Chrétien.
Donc là, si vous aviez continué de suivre notre timeline, l'incident de la place Bonaventure a eu lieu en 1990, donc oui. Un petit peu sur le tard. Donc le programme de recherche était déjà un petit peu sur le respirateur artificiel. Donc on va juste produire un rapport assez maigre de 2 pages au sujet de l'événement. Moi, je trouve ça intéressant que dans les années 60, pendant que la technologie est encore assez rudimentaire, il y avait un intérêt non seulement grandissant, mais authentique de la part de nos figures d'autorité pour observer et étudier les différents phénomènes paranormaux qui jaillissaient dans le quotidien. À notre époque, maintenant qu'on a une technologie qui est beaucoup plus avancée, on dirait que notre curiosité s'est comme résorbée. On est moins intéressé à ces choses-là, on veut plus vraiment mettre de l'argent là-dedans.
Mm-hmm.
Tandis que maintenant, ben, on aurait les moyens de le faire, mais on le fait plus.
Mais non, faut qu'on développe des avions de chasse.
Faut qu'on développe des avions
de chasse. Budget de l'armée.
Hey! Par contre, si ça vous intéresse, ben, sachez que toutes les archives produites au sujet des phénomènes paranormaux par le Centre national de recherche, ben, c'est disponible et accessible au grand public.
Hey!
Aux archives nationales.
Hey!
Donc, si vous savez pas quoi faire pour votre première date, ben, qu'un.
C'est un très bon icebreaker, quand même.
Moi, j'avoue que je serais séduite à 200%. Veux-tu venir lire des rapports d'OVNI puis après aller sipper une coupe de Black Velvet? Oui, absolument, on peut faire ça. Ça va me faire plaisir.
C'est très charmant. Si vous avez besoin de dating advice, ça en est un très bon.
Mais là, faites pas juste entrer et crier « Dites-moi tout sur les aliens stat! » Vous allez vous faire sacrer dehors, c'est une bibliothèque. Chut.
Ouais, on parle pas fort, là.
Fait que oui, il faut prendre rendez-vous avant de vous y rendre, mais on va vous accueillir et on va vous sortir toutes les boîtes de monsieur madame qui disent « Oh my god, il y avait des enfants qui flippaient dans le ciel, oh my god, oh my god, oh my god! »
C'est comme un musée de la police, en fond.
Hey, on vous donne des idées de dates incroyables.
Mais le musée de la police, ça coûte cher, aller au musée de la police, mais c'est très intéressant. Il y a des beaux costumes derrière des vitrines. Là.
Des belles cravates.
Des beaux costumes, des belles cravates, des beaux vestons. Puis beaucoup de boîtes d'archives à consulter, si vous avez besoin de... Oui.
Et mettre des beaux petits
gants. Si vous n'avez pas quoi faire un mardi, un après-midi de pluvieux du mois d'octobre, ça pourrait être une belle activité pour vous.
Et voilà.
Et voilà.
Et ensuite, pour votre deuxième date, allez lire des rapports sur les ovnis.
Ça va être dur de taper ça pour une troisième date, par exemple.
Ah, j'avoue, une troisième date.
Là, c'est juste ça.
C'est it's on you, buddy.
C'est la pente descendante, ouais.
It's on you, buddy. J'espère que t'es dans fort.
Ouais. Peut-être le PFK.
Ah, nouveau podcast. Catherine et Audrey vous recommandent des dates.
Des endroits. Curioso Montréal!
Curioso Montréal!
Ça devrait clairement s'appeler comme ça.
Mais le pire, c'est que j'ai un guide Strange Prague.
Oui, j'en ai un pour Londres.
Ah! Oh!
Bon!
Voilà. Ben voilà, on va faire celui pour Montréal.
OK.
Montréal bizarre.
Le Montréal des bizarres.
Le Montréal des bizarres, puis on va pas juste aller au fou.
Ouais, c'est ça.
Mais là, j'aimerais, parlant de rapport, qu'on s'intéresse à ce fameux rapport dont je vous ai parlé au tout début de l'épisode, produit par Monsieur Bernard Guénette et Richard Haines. Richard Haines, c'est pas des peanuts. Il a 3 bacs en psychologie du Michigan State University et du Pacific Lutheran College de Tacoma dans l'État du Washington.
Je sais pas c'est quoi.
Moi non plus. Mais on salue les gens qui nous écoutent.
Oui.
Il possède également une formation d'ingénieur de l'Université de Washington et il est certifié comme pilote. Mais ce qui nous intéresse dans le cas de l'OVNI de la place Bonaventure, c'est que Monsieur Haines, il a travaillé 30 ans pour la NASA. La NASA. La vraie de vraie NASA.
La vraie de vraie NASA.
Mais là, il y a une chose à savoir, c'est que la NASA, il engage pas juste des experts en aérospatial et des pilotes de fusées et des cosmonautes. Il y a aussi des artistes, des designers graphiques qui travaillent pour la NASA pour nous faire penser que la Terre est ronde.
On peut aller travailler pour la NASA?
On pourrait travailler pour la NASA.
Intéressant.
Je vais être payée, moi, pour la NASA, pour leur faire des belles planètes.
Moi aussi, j'aimerais ça.
On va t'en dessiner une planète, check ça. Fais des beaux ronds.
L'Agence spatiale canadienne,
ronds motherfucker! Je dis ça parce que le travail que Haines a accompli pour la NASA, il portait surtout sur des facteurs humains du développement des engins spatiaux, donc la convivialité de l'humain, qu'il soit le pilote ou l'ingénieur. Et il a beaucoup été analyste sur des scènes d'accidents aériens et a participé à l'élaboration de la coupole vitrée prévue pour la station orbitale Freedom. merci aux Américains, le mot « Freedom » me donne envie de vomir. Mais pour la petite histoire, Freedom devait être une station spatiale permanente en orbite terrestre. Elle a été approuvée par Reagan en 1984, mais l'explosion de la navette Challenger en 1986 a retardé la construction et Freedom est devenue la station spatiale internationale.
Oh, bon! Hey, intéressant!
Et vous apprenez des choses aujourd'hui, là. Oui. J'espère que vous prenez des notes.
Oui!
Mais là, trêve de parenthèse, on revient sur Terre. Richard Haynes, il a travaillé pour la NASA, mais là, Catherine, permets-moi de mettre ma casquette de sceptique qui était juste ici.
C'est permis.
Moi la mettre. Tu vas me dire, Audrey, c'est un chapeau de sorcière parce que c'était l'Halloween. Mais non, c'était pas l'Halloween parce qu'on est plus tard, on a enregistré plus tard. Je voulais faire des blagues d'Halloween. J'aurais dû les enlever. Pardon.
C'est correct.
Ah, oh, puis j'allais dire, dis-le pas parce que c'est un podcast, les gens ne savent pas puis ils me prennent au sérieux. Ils savent pas que je porte pas de pantalon.
Je pense qu'on est très bien habillés, puis c'est ça, dans un beau bureau.
C'est ça, c'est comme l'illusion qu'on entretient pendant les appels Zoom. On fait croire qu'on porte des pantalons.
C'est pas assez à terre habillé en mou, là, c'est pas ça.
Non, on n'est pas Hooga présentement, puis on n'a pas mangé un sac Brookside.
C'est ça, on n'est pas entouré de morceaux de chocolat puis de café.
Donc, Richard Haynes, il a une formation de psychologue. C'est pas un expert en aérospatial, ni en phénomènes météorologiques ou physiques.
Pourquoi t'as mis ton chapeau de sceptique pour dire ça?
Parce que moi, je vais t'expliquer.
Ok, excusez!
Fait que, avec mon bac en littérature, ben, je te dis d'aller péter dans les fleurs, monsieur, avec trois bacs en psycho.
Mais... C'est violent,
ça! Ouf! Ok. Ben non, c'est pas vrai, c'est bien correct, les bacs en psycho. Si vous avez un bac en psycho, on vous salue. C'est un psychologue, puis en plus, il est très ouvert sur ses croyances aux ovnis. Donc, il est un petit peu biaisé, notre monsieur Haynes.
Ah, bon, c'est ça, le chapeau
de... C'est ça, c'est comme si tu me demandais c'est qui le meilleur Batman, pis qu'en arrière de moi, il y avait un poster de Christian Bale, pis que je portais un t-shirt de Christian Bale. C'est comme, j'y connais les...
Pis là, tu dis Val Kilmer.
C'est ça, c'est comme si tu me demandais c'est qui le meilleur Batman, pis moi, avec tout mon stock de Christian Bale, je te dis, ah, mais les Batman de Nolan.
C'est sûr, d'accord.
C'est comme...
Ah, je comprends.
Je pense que j'étais pas exactement neutre. Avant de commenter.
Ok, il était pas neutre, monsieur Haynes.
Non, c'est ça, il est pas neutre, puis il est pas exactement un expert en engins aérospatial. Il est plus un expert des gens qui pilotent ces engins qui traversent l'espace.
Les extraterrestres.
Et les extraterrestres, accessoirement.
Et il pilote aussi les engins, voyons!
Ah oui, il pilote, faut bien que quelqu'un s'en occupe de ça.
Il faut.
Mais non, moi c'est dans le sens que c'est pas un expert en engins aérospatial. Donc oui, il a travaillé pour la NASA, il a fait des travaux jugé assez important pour la NASA, mais en même temps, c'est pas exactement le champ d'études nécessaire pour confirmer ou infirmer l'apparition d'un vaisseau spatial dans le ciel.
C'est un bon argument!
Et on sent qu'il penche déjà du côté de « oui, les extraterrestres, c'est vrai, oui, absolument, oui. »
On voit son petit chapeau en aluminium qui dépasse dans son vrai chapeau.
Dans toute sa perruque.
Dans toute sa perruque.
Ouais! Non. On va dire « peur, il paraît, monsieur l'extraterrestre avec un soupe du monde. » Puis de son côté... Bernard Guénette, c'est un homme d'affaires montréalais passionné par les ovnis. Tellement passionné qu'il est devenu le président de la branche québécoise du... Catherine?
Le MUFON!
Du MUFON!
Oh, mon Dieu! Oui,
le Mutual UFO Network, un regroupement international de passionnés d'ovnis.
Wow!
Catherine et moi, on essaye de rentrer dans le MUFON, mais je pense qu'il aime pas ça qu'on arrête pas de rire quand on
y est. Mais ça coûte cher dans le MUFON. C'est sérieux en plus, oui.
C'est sérieux ce qu'ils font au MUFON, puis Catherine puis moi, on est ben trop ricaneuses, ils aiment pas ça.
C'est sérieux ce qu'on fait ici aussi.
C'est sérieux ce qu'on fait.
Faut qu'on le rappelle.
Et c'est ça, on n'est pas assez par terre avec nos Brookside.
Non, du tout.
Donc, un regroupement, et il a pris...
Et
ASMR de chocolat.
Vas-y.
Bernard Guénette a pris contact avec Haynes à cause des livres publiés par Haynes, dont voici quelques titres. UFO Phenomena and Behavioral Scientists, Observing UFOs, Advanced Aerial Devices Reported During the Korean War, un classique.
C'est très spécifique.
C'est un classique, si vous n'avez pas ça dans vos bibliothèques, je ne sais pas qu'est-ce que vous faites. Et Eat, Pray, UFOs. J'ai rien inventé.
Pour vrai?
Non.
Ben voyons donc,
Eat, Pray, UFOs.
Eat, Pray, UFOs. Mettant en scène Julia Roberts.
Et... Javier Dutton. Et... Javier Dutton. Durée en vert.
Yes! Ok, Eat, Pray, UFOs. Ouais, vas-y, continue. Fait que là, c'était des kindred spirits, t'étais-tu pour se rencontrer,
c'est ça,
M. Guinness et M. Haynes?
C'est comme toi pis moi, ils étaient pas pour se rencontrer pis devenir des amis pour la vie.
C'est ça.
Donc, le rapport publié par Guinness et Haynes, c'est un rapport sur si oui ou non, il y a eu un ovni au-dessus de la place Bonaventure, Puis c'est écrit sur deux dudes qui trippent solide sur les ovnis, fait qu'ils sont comme moi avec Christian Bale, ils sont pas très neutres.
Et la réponse à cette grande question est absolument!
Absolument!
N'est-ce pas?
Ouais!
Et voilà! Attends. Absolument! Ok.
Donc, dans leur rapport qu'ils ont intitulé « Details surrounding a large stationary aerial object above Montreal », c'est un mouthful.
Donc, c'est un mot-titre. Ça dit ce que ça a à dire.
Pour nos auditoristes un peu moins à l'aise en anglais, les détails entourant la présence d'un grand objet volant dans le ciel de Montréal... Mm-hmm. Guinette et Haynes déclarent qu'il y a preuve irréfutable qu'un immense objet a silencieusement flotté dans le ciel au-dessus de Montréal le soir du 7 novembre 1990. Donc, après tout, il y avait sur place au moins 10 témoins, d'âge adulte, vaccinés avec toute leur dent, considérés comme fiables, mais moi je dis qu'il y avait un bar à côté de la piscine, whatever, et deux photographies couleur ont été prises de l'apparition. Wow. C'est aussi à cause de l'importante couverture nuageuse que Haynes rejette l'explication d'un simple phénomène météorologique ou astronomique. Dans son rapport, il a également démenti l'hypothèse d'une lumière qui se reflète sur les nuages. La couverture nuageuse était passée de 1600 à 1100 mètres, et dans le cas d'un reflet, plus la surface réfléchissante se rapproche de la source lumineuse, donc pensez à si vous prenez une lampe de poche et que vous l'approchez de votre paume, plus vous allez approcher la lampe de poche de votre paume, plus le cercle lumineux va être défini au centre de votre paume. Là, on fait de la science avec Catherine
c'est,
et Audrey.
C'est ça, j'allais dire. C'est quoi qu'on fait, là? Un cours de science secondaire 3?
On fait 3? Des expériences.
OK, mais là, faisceau de lampe dans une main.
Mais là, c'est ça, les rayons, au lieu de se diffuser dans la couverture nuageuse, ils s'arrêtent brusquement.
Oui.
Ce qui est étrange.
Oui.
C'est étrange.
Oui.
Maintenant, en mettant son chapeau de papier d'aluminium, Haynes va se questionner dans la conclusion de son rapport sur l'absence de réponse ou d'explication provenant de sources officielles. Aucune action n'a été prise du côté de la base militaire de Saint-Hubert, mon Oud.
What? Une base militaire à Saint-Hubert?
Ouais.
Je savais pas ça.
Ouais, puis pour la petite histoire, c'est là qu'ils ont tourné Love Story.
Pardon?
Oui.
Love Story?
Oui, un gros building pour l'aéroport de Saint-Hubert, puis il y a un étage qui servait à tourner Love Story.
Ah oui, l'aéroport!
L'aéroport de Saint-Hubert.
On en apprend des affaires. Hein.
Okay. Et...
Fait que là, la base militaire de Saint-Hubert, ils n'ont rien dit d'officiel.
Non, ils étaient occupés. Donc, la base militaire de Saint-Hubert n'a rien fait. Et l'événement n'a pas non plus été rapporté auprès de la NORAD, la North American Aerospace Defense Command. Par contre, et comme on en a parlé plus tôt avec le projet Second Story, si l'objet observé ne semble pas présenter une brèche dans la sécurité nationale, ben c'est normal que l'armée se soit pas rendue sur les lieux.
Mais effectivement, ils ont d'autres choses à faire.
C'est ça, ça, je veux dire, c'est bien fun la boule disco céleste, là, mais l'armée, elle a d'autres choses à faire.
Oui, vraiment.
À la fin de son rapport, Haynes conclut que l'objet demeure non identifié à ce jour. Donc, il confirme pas qu'il s'agissait d'un ovni, mais il ne rejette pas la théorie non plus. Donc, il est comme une maman dans une piscine hors terre, il veut pas trop se mouiller.
Oh! Parce qu'il vient d'avoir une permanente.
C'est ça. Mm-hmm. Il veut pas se mouiller.
Je comprends.
Comme dans Blonde et les gars.
Comme dans Blonde et les gars. Fait référence à un épisode sur deux à Blonde et les gars.
Et c'est très important.
Ouais.
Et là, Catherine, comme tu t'y attends, un événement de même, ben ça va attirer son lot de sceptiques, de ben voyons donc, pis de pff, come on.
Je m'y attendais pas.
Come on.
Come on.
L'un d'entre eux, Claude Lafleur, journaliste scientifique au Devoir et propriétaire du plus beau site web que j'ai jamais vu dans mon existence.
Ouais.
Ça date depuis des années 2000.
Ah, oh, j'ai hâte de voir ça.
Il demande pourquoi le phénomène était seulement visible sur le toit de la place Bonaventure. Hein? Pourquoi? Hein? Il y a aucune autre observation qui a été faite par des gens qui se trouvaient dans les édifices environnants. Puis on est quand même au centre-ville.
Ouais.
Il y en a du building dans ces coins-là.
Basilique Notre-Dame ou whatever.
Les prêtres, ils ont-tu vu quelque chose?
Ouais.
Ils ont-tu pitché de l'eau bénite dans le ciel?
Je connais pas les autres édifices autour de ça.
Non, moi non plus. Mais en fait, je les connais, mais je
suis... Ils
Ils ont-tu arrêté la game de hockey pour regarder les E.T.?
Ah, j'avoue que c'est louche. Bon argument, ça, monsieur.
Parce qu'il y a beaucoup de buildings, c'est un concrete jungle, monsieur comme qu'il dirait Bob Marley.
Ah, oh, il dirait ça, oui.
Puis il dirait comme, oh my god, c'est extraterrestre.
Aussi.
Claude Lafleur déclare aussi que tout dépend de la définition qu'on donne au mot objet. Un nuage,
ben,
c'est un objet, I guess. En tant qu'étudiant dans la littérature, je peux pas me signer avec ça, monsieur. Je peux pas me signer avec ça.
Je trouve qu'on joue avec la sémantique.
Là, pis là, je suis comme, hey, wow, tu sais,
comment? Excuse-moi, là, oui, un nuage, c'est un objet, mais un nuage, c'est pas un objet volant non identifié. Il est identifié, c'est un nuage.
Non, c'est comme quand tu t'obstines avec quelqu'un, là, genre, t'as dit à côté, mais tu sais, ça peut être l'autre côté. Toi, t'es comme, c'est pour ça que je t'invite à rien, tu m'écœures. Une autre théorie que Heinz et Gainette ont cherché à enterrer dans leur rapport, c'est la théorie des débris provenant d'un engin aérospatial. Par exemple, des restes de fusées. Je trouvais ça un peu funky comme théorie, par exemple, des restes de fusées qui flottent dans le ciel.
Qui flottent, mais c'est ça!
Mais en tout cas, une théorie d'un débris sur lequel il y aurait eu de la lumière qui se serait reflétée.
Mm-hmm.
Moi, je demeure sceptique, mais une sceptique open. J'y crois pas nécessairement, mais je trouve ça bien intéressant, les histoires d'extraterrestres. Il y a tellement de choses qui échappent à notre compréhension, puis veux pas, l'humain, on est une espèce fabulatrice, pour emprunter l'expression de l'auteure canadienne Nancy Houston. Au fond, on a besoin de se raconter des histoires, pas juste pour comprendre, mais aussi, au fond, pour se rassurer.
Même pas vrai. On ne fait jamais ça.
J'ai jamais fait ça. On n'aime pas ça, pas savoir quelque chose. C'est l'absence de savoir qui va motiver notre désir de raconter. Les mythes, les légendes, tout ça, c'est des manières par lesquelles on a tenté de s'expliquer les phénomènes météorologiques, le passage entre le jour et la nuit, les saisons, la vie, la mort. Si on applique notre besoin de raconter à l'univers, qui est un espace tellement vaste, qui échappe complètement à notre compréhension pour la majorité d'entre nous, ben on a un terrain très fertile pour des explications parfois un peu farfelues pour ce qui nous empêche de dormir la nuit. Par exemple, c'est quoi le maudit triangle des Bermudes? C'est vraiment dangereux, faudrait qu'on fasse quelque chose.
Faudrait.
Tu sais, des bateaux qui disparaissent, là, c'est pas normal.
Non, effectivement.
Est-ce que les événements de la place Bonaventure, c'est la preuve que les extraterrestres sont venus nous visiter?
Oui!
Non, pas vraiment.
Ok, pardon.
Oui, écoute. C'est la preuve qu'il y a encore beaucoup de choses qu'on n'arrive pas à expliquer. Puis en plus, dans les années 90, on n'avait pas la technologie qu'on a aujourd'hui. Si on pense, par exemple, à SpaceX, on est fasciné par l'espace parce que c'est hors de notre portée pour 90% d'entre nous autres. On n'a pas le moyen d'aller vérifier par nous-mêmes. Et pour certaines personnes, ben malheureusement, c'est tellement hors de notre portée qu'on aime mieux penser que ça existe même pas pour de vrai, puis que l'espace est un hoax, puis que la Terre est plate.
Oui.
Mais ça, c'est pour les gens qui sont eux-mêmes plates. Parce que moi, je trouve ça vraiment plate, la théorie de la Terre plate. Je suis comme, non, l'univers, c'est tellement gros. De réduire ça à la Terre est plate, c'est l'équivalent de dire que Harry Potter, ça n'était qu'un rêve.
Mais il y a des gens qui ont été persécutés par l'Église pour avoir essayé de prouver que la Terre n'était pas plate, puis là, justement, qu'il y ait autant de flat earthers, c'est un petit peu une insulte à la mémoire de ces scientifiques-là.
Oui, puis les gens qui disent que Challenger, c'est pas vrai, ayez un peu de respect. Ça peut être drôle, des fois, les conspiracy theories, mais je pense que des fois, on va un petit peu trop loin, puis on manque de respect à l'intelligence humaine.
Oui. Puis surtout Challenger, c'est terrifiant, Challenger.
C'est terrifiant. Vous pouvez écouter le documentaire qui est disponible sur Netflix, qui est vraiment très bien fait, ou un autre podcast. C'est un podcast,
on recommande des podcasts. Tout ce qu'on fait, c'est faire des plugs de podcasts, exactement.
On vous recommande l'excellent podcast Swindled, qui ont fait un épisode sur l'explosion du Challenger. Malheureusement, c'est un podcast en anglais. Catherine et moi, on va s'excuser un peu là-dessus. On écoute beaucoup de podcasts en anglais. Mais là, dans le fond, moi, c'est ma conclusion. L'univers est infini. Si on se fie aux probabilités, oui, il y a une forme de vie ailleurs. C'est très, très, très probable. On entend régulièrement parler des scientifiques qui découvrent des nouvelles planètes dans d'autres galaxies qui pourraient être similaires à la Terre et vers lesquelles le Romanovafort est en route, I guess, parce qu'on est une gang de tweets qui utilise encore du push-push en caca.
Pas encore?
Ben oui, on
dit dans 14 ans, ça va partir.
Du push-push en caca.
Le 28 octobre 2034.
C'est vrai.
Bientôt. 14 ans.
Bientôt, là. Faites vos valises.
Ça s'en vient.
Puis même, il existe une zone qu'on appelle la zone boucle d'or. C'est une zone où, grâce à sa distance avec le Soleil, les conditions sont réunies pour qu'une forme de vie éclose et prospère. Oui, si en 1990, on pensait que les chances de trouver une planète similaire à la nôtre, c'était peut-être 1 sur 1 milliard, ben là, de plus en plus, les probabilités, ça m'insiste. Peut-être que dans 50 ans, ça va être 1 sur 100 000, 10 000, donc plus le temps avance et plus on a la technologie pour y aller et pour faire des découvertes, mais plus ces probabilités-là vont s'amincir, puis on va découvrir d'autres choses. Là, je suis pas en train de dire que vous pouvez continuer d'utiliser du push-push en cacane.
Non, c'est pas ça qu'on dit.
Je tergiverse, mais avec la technologie, on découvre des nouveaux corps célestes dont certains pourraient peut-être être habitable des corps célestes, comme celui d'Oscar Isaac. Mais là, même si ces bodies célestes sont habités, la question reste de savoir si est-ce que ces formes de vie-là cherchent vraiment à nous visiter. Pour l'instant, les preuves restent franchement minces, ça va du doute concret ou parfois un petit peu farfelu. Donc oui, on a des récits de gens qui disent avoir rencontré des extraterrestres, mais à quel point on peut s'y fier, je sais pas, mais en même temps, ça reste des excellentes histoires très intéressantes, et je pense que c'est toujours le fun de garder l'esprit ouvert quand on écoute ces histoires-là. Mais une chose est sûre, c'est que si quelqu'un vous dit que le gouvernement est erroné par une secte de pédophiles qui offre des enfants sacrifices à des overlords extraterrestres, reconsidérez vos fréquentations.
For real. Il n'est jamais trop tard pour ça.
Voilà. C'était mon épisode sur l'OVNI de la place.
Les Bonaventure. De la place Bonaventure!
Voilà.
C'est incroyable, j'y crois. Moi, j'ai essayé de... Là, tu parlais des statistiques de trouver des planètes habitables. J'ai essayé de trouver rapidement c'est quoi les probabilités de se faire frapper par la foudre, puis j'ai rien trouvé de même, mais... il y a peut-être autant de chances de se faire frapper par la foudre que de trouver une planète habitable, ce qui est quand même intéressant.
Je pensais que t'allais me dire, là, je cherchais une planète habitable.
Non, je cherchais... J'ai tout de suite pensé à des choses qui sont très improbables, comme gagner à la loterie et être frappé par la foudre, puis je voulais trouver les chiffres, mais faire de la recherche on the spot, c'est pas mon fort, apparemment. Mais j'ai trouvé, juste pour préciser, tantôt, on se demandait qui était le premier ministre du Canada en 1990, c'était bien le beau Brian Mulroney.
Brian, on le salue.
J'ai pas checké de photo de lui, par exemple, je sais pas s'il est beau, il est peut-être juste beau dans mon souvenir.
Peut-être beau pour nos standards de premier ministre, parce que moi, personnellement, ouais. Justin Trudeau, non merci.
Oh, ça le fait pas pour toi? Ouais,
peut-être plus que d'autres, mais... Je sais pas, parce que des fois, tu sais, on écoute beaucoup de podcasts américains, puis quand ils parlent de Justin Trudeau, c'est comme si on parlait... C'est comme quand moi je parle de Oscar Isaac.
Oui! Je veux dire, l'autre avait Donald Trump, là, c'est pour ça. Ça
mais j'avoue que pas, mais... eux, la barre était bien basse.
Elle était très basse.
Mais elle achève cette barre.
Elle achève cette barre.
On va jamais assez le répéter.
Non, on est bien
heureux. Il faut le célébrer.
Fait qu'on vous remercie d'avoir été avec nous aujourd'hui, chers auditeurs, chères auditrices.
Et oubliez pas, si vous voulez nous écrire pour faire des suggestions, nous raconter vous-même vos... avez-vous déjà vu un
OVNI? Aux rencontres du quatrième type, oui, et enlèvement d'extraterrestres.
Et vous pouvez nous... Si vous voulez faire des rencontres du septième type même, vous pouvez nous en parler, on risque juste de pas les lire en onde. Mais oui, si vous voulez nous écrire, nous raconter vos histoires vous-même de paranormal, de rencontres avec le paranormal, pour nous faire des suggestions, pour nous poser des questions. Si jamais vous aimeriez qu'on on fasse un épisode spécial où on fait juste répondre à vos questions, on peut le faire, ça serait comme jouer à Brain Josette avec vos questions.
Mais en onde et avec vous tous et vous toutes.
Exactement.
Ça sera bien quand même.
Oui, ça serait drôle, on pourrait vous faire des suggestions de films d'horreur, nos romans préférés de science-fiction. Donc, vous pouvez nous le demander, ça va nous faire plaisir de vous répondre.
Et si vous voulez rien savoir de ça, vous pouvez aussi nous écrire pour nous le dire.
On vous répondra super. Pas.
Non, on vous répondra pas. Donc, on va voilà, vous laisser c'est tranquille. C'est une bonne façon de terminer notre épisode.
C'est ça. Donc, écrivez-nous unpeucrecrime@gmail.com puis oubliez pas de nous suivre sur Instagram. Yes. Un peu de crime dans ton café, même affaire pour Facebook. Un peu de crime dans ton café.
Mm-hmm.
Puis en attendant, oubliez pas de mettre un peu de crime dans votre café.
Yay! Bye bye! Bye bye!